Avant de prier ensemble, lisons une parole de Dieu tirée du prophète Ésaïe, chapitre 53. Du prophète Ésaïe, chapitre 53, ici cet homme de Dieu s'exclame et dit, au verset 1, « Qui a cru à notre message et à qui le bras de l'Éternel s'est-il manifesté ?» Il grandissait devant lui comme un rejeton, comme une racine de terre sèche. Il n'avait ni forme, ni beauté pour que nous le regardions, ni apparence pour que nous prenions plaisir en lui. Non, il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la maladie. Oui, comme celui devant qui on se voile la face, méprisé, si bien que nous le regardions comme un moins que rien. Pourtant, c'est nos maladies qu'il a portées et nos douleurs qu'il a pris sur lui, alors que nous le pensions puni, frappé de Dieu et martyrisé. Et pourtant, il était blessé à cause de nos transgressions et brisé à cause de nos fautes. Le châtiment était mis sur lui afin de nous donner la paix et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Quand il a été maltraité, il s'y est livré de bon cœur. Il n'a pas ouvert la bouche comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir, comme la brebis qui reste muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été soustrait de la tribulation et au jugement. Mais qui, parmi ses contemporains, a considéré qu'il était retranché de la terre des vivants? À cause de l'iniquité de mon peuple, le châtiment l'a atteint. On lui assigna son sépulcre avec les violents et sa tombe avec les coupables. Bien qu'il n'eût commis aucune violence et qu'il n'y eut aucune fraude dans sa bouche. Mais il a plu à l'Éternel de le meurtrir par la maladie. Quand il aura livré sa vie comme sacrifice d'expiation pour le péché, il verra une semence et vivra de longs jours et la volonté de l'Éternel dans le plan du salut s'accomplira par lui. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous permettre d'être à nouveau ici ce soir et de savoir que cette parole aussi a été écrite sur notre Seigneur et que tout s'est accompli en lui. C'est ainsi que nous rendons gloire à Dieu en plaçant notre confiance, non pas dans les hommes, mais dans le Dieu vivant. Et c'est ainsi que nous voulons lui offrir l'honneur, la louange et l'adoration. Levons-nous maintenant pour cela. Dieu fidèle, nous sommes de nouveau devant toi, Seigneur, avec nos frères et sœurs, de près et de loin, de partout, tu les as ramenés ici. Leur désir était d'être en communion avec nous, avec ton peuple et avec toi, Seigneur. Seigneur fidèle, nous te remercions de nous avoir permis d'être ici et de nous prosterner et de t'adorer. Nous te prions avec ferveur, Seigneur, ne passe pas à côté de nous ce soir, mais continue à nous parler. Seigneur, tu as tout accompli pour nous. C'est ce que nous avons lu. Tu as pris sur toi toutes les maladies. Tu as tout enduré pour nous. Il n'y avait rien, Seigneur, qui pût être vu comme beauté sur toi pour que nous puissions te regarder. Tu n'avais même plus d'apparence qui pût plaire. C'est écrit, mais Seigneur, tu as tout accompli pour nous. Nous t'adorons et te remercions du fond de nos cœurs. Seigneur, comme il est écrit, tu as tout accompli pour nous. Nous t'adorons et te remercions du fond de nos cœurs. Seigneur, comme il est écrit, tu étais l'homme des douleurs. Ô Seigneur, merci et gloire à toi, car nous pouvons venir à toi avec tout ce qui nous fait souffrir. Nous te prions de nous bénir. Bénis aussi la chère sœur Becca à l'hôpital qui s'est recommandée à nos requêtes. Sois avec elle, Seigneur. Bénis aussi tout ton peuple, tous ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Que tu bénisses tous de la richesse de ta grâce. Je te prie, Seigneur, aussi d'accorder à mon frère la grâce de parler. Aide-le, Seigneur, en lui accordant ta grâce et en le fortifiant dans son esprit, son âme et son corps. Nous demandons tout cela dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louange et remerciement au Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur. Il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Il est ressuscité d'entre les morts. Il vit. Frère Kupfer m'a exprimé tout à l'heure une parole très réconfortante. Même si un croyant est malade, il sait que le Seigneur a porté la maladie et ne la considère que comme une épreuve qui vient et qui part parce que le Seigneur a déjà porté la maladie. Nous l'avons tous lu dans Ésaïe 53. Et nous donnons raison à Dieu. Ce que Dieu dit est vrai. Tout le reste est passager et n'est de toute façon pas vrai. Nous sommes reconnaissants au Seigneur chaque fois que nous pouvons nous réunir. Souvent, nous ne nous disons pas si souvent les uns aux autres, mais de temps en temps, nous sommes aussi avec frère Rousse et les frères, et nous nous disons alors les uns aux autres. Nous prêchons à partir de la même Bible, année après année. Combien de milliers de prédications avons-nous déjà tenues? Et nous serions heureux de ne plus devoir parler, mais d'écouter ce que Dieu a fait de grand chez les autres. Et puis nous avons dû nous dire les uns aux autres, Dieu est fidèle. Il accorde toujours de nouveau sa parole. Il révèle toujours quelque chose et nous ne repartons jamais vides d'une réunion. Bien au contraire, nous repartons toujours avec quelque chose. Nous ne pouvons que remercier Dieu pour le grand privilège de pouvoir croire comme l'Écriture l'a dit. Nous lui disons merci de ne pas devoir croire comme les hommes le disent, mais de pouvoir croire comme l'Écriture l'a dit. Et alors, nous ne serons pas déçus non plus. Ce week-end, nous étions en Suisse et samedi, il y avait un grand mariage. Il y avait beaucoup de monde dans l'une des plus belles églises que l'on puisse trouver là-bas, classée monument historique. Et il ne manquait vraiment rien. Mais le plus important dans tout cela, c'est la parole de notre Dieu. Quelles que soient les tâches à accomplir, il y a toujours une tâche à accomplir, qu'il s'agisse d'un mariage, d'un enterrement, quelle que soit l'occasion, cela n'a aucune importance. Nous devons aux gens de leur faire connaître l'Évangile Et c'est ensuite à eux de décider ce qu'ils en font, ce qu'ils en feront. C'est ce que nous avons aussi pu faire avec l'aide de Dieu lors de ce mariage, faire connaître l'Évangile. La réunion a également été bénie. Le frère Kupfer m'a encore dit qu'avant le service à Zurich, ils étaient allés prier avec quelques frères dans une petite pièce et qu'ils avaient exprimé certaines pensées qui ont ensuite été exprimées dans la prédication. Et il a dit, frère Zink est venu le voir après la réunion. Il lui a dit, regarde, les choses pour lesquelles nous avions prié, ce que nous avons demandé au Seigneur dans la prière, la réponse est venue dans la prédication. Vous voyez, Dieu est fidèle. Parfois, nous n'apprécions probablement pas à sa juste valeur ce que signifie cela. De laisser Dieu lui-même s'exprimer, lui-même parler par sa parole. Mon petit-fils m'a dit aujourd'hui, après avoir vu une partie du film de frère Branham, seul un prophète peut savoir de telles choses. Et je lui ai dit, oui, je lui ai dit qu'un prophète sait exactement ce que le Seigneur lui révèle. Il ne sait que ce que le Seigneur lui révèle. Et c'est vrai, il y a des gens qui pensent qu'un prophète, il sait tout, il ouvre là un peu près comme cela se passe au moment de Noël et puis on met la table. Non, un prophète sait exactement seulement ce que le Seigneur lui révèle. Personne ne peut prendre, ne peut recevoir quelque chose si ce n'est que cela lui est accordé par Dieu. Et Dieu lui a accordé ces choses. Et nous lui en sommes très reconnaissants. Nous nous réjouissons sincèrement à chaque fois que nos frères, quand nos frères sont bénis, nous nous réjouissons sincèrement. Et surtout si c'est dans le même esprit que cela se passe. Il est en effet important de ne pas seulement tirer sur la même corde ou le même fil selon l'environnement où le mot est utilisé de telle ou telle manière. Il faut tirer sur le même bout, sur la même corde. Si l'un tire par un bout et l'autre par un autre, ils peuvent encore tirer sur la même corde dans deux directions différentes. Il faut être d'abord du même côté. Et cela ne doit pas non plus être le cas. Qu'on soit de deux côtés différents et puis tirer à la même corde. Non, il faut être du même côté et tirer ensuite du même côté la même corde. Cela doit aller dans une seule direction et cela ne peut être que la direction divine. Nous ne voulons pas d'une autre direction. C'est la troisième fois que je mentionne le frère Kupfer ce soir, mais c'est un homme qui prend beaucoup de notes et qui est très vigilant et qui observe beaucoup. Il avait pris une note, la suivante. Frère Frank aime tous les frères, même les frères qui ont des opinions différentes. Mais il n'y a pas d'union dans l'amour de Dieu possible avec eux, parce qu'ils ont un autre esprit. On peut aimer chacun intimement, sincèrement, de tout son cœur. Mais s'il y a d'autres doctrines, d'autres enseignements, alors ça veut dire qu'il y a d'autres esprits derrière ces autres enseignements. Et l'Esprit de Dieu ne s'unit qu'avec l'Esprit de Dieu. Seul ce qui vient de Dieu ramène à Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu ne ramène pas non plus à lui. C'est pourquoi il est écrit, la parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas à moi à vide, sans effet, à moins qu'elle n'ait accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Nous reconnaissons de plus en plus ce qui est important, à savoir l'amour divin qui est l'amour de la vérité. Et la vérité est la parole de Dieu. Et aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. La parole de Dieu a été la vérité dès le commencement et le restera pour l'éternité. Les interprétations ont été l'œuvre des hommes dès le début et le resteront jusqu'à la fin. Ce ne serait pas encore si grave si l'ennemi n'était pas directement derrière tout cela pour semer la confusion et provoquer des troubles. Mais ne nous attristons pas à ce sujet, mais sachons, les mêmes choses se sont toujours produites au jour des prophètes, au jour de notre Seigneur. Beaucoup de choses ont été ainsi que si nous y réfléchissons bien, nous aurions souhaité qu'il en soit autrement. Mais Dieu permet qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Nous ne pouvons même pas le demander. Nous avons lu la magnifique parole d'Ésaïe 53. Et j'aimerais profiter de cette soirée pour nous rappeler les voix du peuple de Dieu et par là même nos voix personnelles avec Dieu qui peuvent être très différentes, mais qui sont néanmoins à la gloire de Dieu, qui peuvent être très différentes. Nous avons lu dans le prophète Ésaïe que notre Seigneur n'avait ni forme ni beauté et qu'il n'avait ni beauté qu'on aurait pu qui ferait en sorte qu'on aurait pris plaisir en lui. Non, nous chantons ce cœur, ce n'est pas l'huile. L'étoile du matin, brillante, l'huile, le plus beau des 10 000, celui qui l'aime, l'aime. Je peux vous montrer que les saintes Écritures disent qu'il n'y a personne d'aussi beau que toi sur la terre. Psaume 45, du verset 3 au verset 8. Celui qui lira attentivement pourra déjà faire le parallèle avec Hébreux chapitre 1. Psaume 45, verset 3. Tu es beau comme aucun autre homme sur la terre. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Ceint ton épée à ton côté, héros, et ton armure resplendissante. Gloire à toi, avance victorieusement pour la cause de la vérité, pour la protection du droit, et que ton bras te fasse voir de redoutables exploits. Tes flèches sont aiguës, les peuples tombent sous toi. Elle perce le cœur des ennemis du roi. Maintenant, écoutez, ton trône est le trône de Dieu. Il se tient pour toujours et éternellement. Un sceptre d'équité est le bâton de ton règne. Tu aimes la justice et tu hais la violence. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie comme aucun de tes semblables. Dois-je vous lire ce passage du premier chapitre des Hébreux afin que vous sachiez qu'il est écrit ainsi de notre Seigneur. Il est les deux, le plus beau, le plus glorieux. Mais c'est à cause de nous qu'il est devenu tel qu'Ésaïe le décrit. Hébreux chapitre 1, du verset 8. Mais en ce qui concerne le Fils, ton trône, ô Dieu, demeure ferme dans toute l'éternité. Et le sceptre de la droiture est le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice et tu as haï la transgression de la loi. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie en présence de tes semblables. L'un n'a pas copié sur l'autre, mais tous étaient conduits et dirigés et guidés par le même Esprit de Dieu pour exposer ce qui devait être dit. Ton trône est le trône de Dieu. Il est établi pour toujours et éternellement. Il est établi pour toujours et éternellement. Un sceptre d'équité est le bâton de ton règne. Le bâton souverain ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne celui qui dominera en Israël. Le bâton souverain est sur son épaule, Ésaïe 9, verset 5. Et que le bâton souverain qui ne s'éloignera pas de Juda, c'est écrit dans Genèse. Comme une parole s'accorde magnifiquement les unes avec les autres. Permettez-moi de vous lire quelques passages qui devraient mettre un contraste devant nos yeux, à savoir la parole élevée. Je voudrais lire trois passages qui rapportent cette parole, se référant à notre Seigneur, lorsqu'il a été élevé sur la croix. Puis, je voudrais lire le passage où après la crucifixion et après sa montée au ciel, il a été ainsi élevé, exalté au-delà de toute mesure et est entré dans les cieux ou dans le ciel. D'abord, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, plus tard nous ferons le lien avec Hébreux chapitre 11, Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Cette élévation était très différente de la glorification. Il a été élevé, raillé, craché, frappé, martyrisé. Il a été élevé pour que tous puissent voir ce qui lui arrivait. Mais déjà, symbolisé comme Moïse avait élevé le serpent des reins, ainsi le Christ devait être élevé comme un signe pour écraser la tête du serpent. Et celui qui regardera vers lui vivra. Car c'est bien de cela qu'il s'agissait. L'aiguillon du péché et de la mort nous avait tous atteints, touchés. Il devait maintenant le retirer. Il devait mourir pour engloutir la mort dans la victoire, pour nous délivrer de la mort et nous offrir la victoire par grâce. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé. Je lis le verset 28 maintenant de l'évangile de Jean au chapitre 8, donc Jean 8, verset 28. Puis Jésus poursuivit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que je le suis. Et que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je parle comme le Père m'a instruit. Quelle parole merveilleuse! Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que je le suis. Avant, il avait dit oui, ou directement ici, au verset 24. Dans Jean 8, il est écrit, c'est pourquoi je vous le dis que vous allez mourir dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je le suis, vous allez mourir dans vos péchés. Et maintenant, lui-même, il fait le pont avec cela et dit, au verset 28, puis Jésus poursuivit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que je le suis. Avant, ils ne pouvaient pas croire que c'était lui, Et il dit, si vous ne croyez pas que je le suis, vous allez mourir dans votre péché, dans vos péchés. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que je le suis. Permettez-moi de le dire ici clairement. Depuis le jour où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été crucifié, tous ceux qui devaient être sauvés ont reconnu qu'il était le Rédempteur et qu'il est le Sauveur et qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre en qui Dieu nous a donné le salut en dehors de lui. Pas d'autre nom et pas d'autre personne. Maintenant, une autre parole dans Jean, chapitre 12, verset 32. Peut-être 32 et 33. Jean 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous à moi. Mais il dit cela pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Très clair. Il a été élevé sur la croix. Élevé de la terre sur la croix pour attirer à lui tous les enfants de Dieu dispersés, pour donner à tous ceux qui voulaient être sauvés la possibilité de l'être. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Donc, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Cela me fait penser à la dame qui m'a appelé hier soir, une femme de confession catholique, qui a écouté quelques prédications, se retrouve à l'hôpital et l'ecclésiastique catholique lui rend visite et lui dit, vous faites partie de notre église, etc. Et elle est est-ce que vous souhaitez qu'on vous serve? Et elle répondit, oui, je le souhaite depuis longtemps. Et il la regarde et la conversation continue. Et cela a abouti à ce que cette dame dise, pouvez-vous en fait me dire pourquoi nous, elle a utilisé le mot saint dans notre sainte église, nous sommes privés de la parole de Dieu par vous et par tous les autres. Alors elle a soudain dit, avez-vous déjà entendu parler du centre missionnaire là-bas à Krefeld? La parole de Dieu là-bas est encore prêchée aujourd'hui. Vous devriez y aller. Il faut aussi avoir le courage de le confesser. On ne sait pas à quelle profondeur une parole ou une prédication pénètre. dans le cœur d'une personne. On ne sait pas non plus à quel moment la décision finale est prise chez une personne. Nous savons une chose, que la parole de Dieu est la semence. Et que si la semence divine est répandue, alors quelque part, à un moment donné, du fruit sortira pour la gloire de Dieu. La parole ne revient jamais à vide. Elle produit toujours l'effet pour lequel elle est envoyée. Il est écrit ici, je relis encore le verset 32 et 33. Jean 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous à moi. Mais il dit cela pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Une certaine élévation a eu lieu à la croix, nous qui étions en Israël. Nous avons vu de nos propres yeux le lieu du crâne. Nous avons vu la colline de Golgotha, cette petite élévation. Et puis bien sûr, la croix sur cette élévation, sur cette colline. Et là, le Fils de Dieu était suspendu entre ciel et terre, couvert d'opprobre, moqué, mais un sens et un but divin étaient accomplis là. L'humanité ne le voyait pas. Il voyait l'homme de douleur. Et comme le dit le prophète Esaïe, nous le considérions comme un homme frappé par Dieu et martyrisé par Dieu. Mais ce n'était pas le cas. C'était à cause de nous. Notre châtiment avait été mis sur lui afin que nous ayons la paix. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été rachetés et guéris. Il a été élevé. On a craché sur lui, on s'est moqué de lui, le monde entier a pu le voir. Mais vous pouvez lire ceci. À l'heure même de la crucifixion, on s'est exclamé, en vérité, celui-ci était le Fils de Dieu. Encore, à l'heure de la crucifixion, il y avait encore, ou déjà, il y a eu des hommes auxquels Dieu a ouvert les yeux sur ce qui se passait sur le lieu du crâne, sur cette colline de Golgotha. Les hommes n'ont pas vu Dieu, mais Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Ils ont vu celui qui a été frappé et martyrisé. Mais Dieu, nous, a vu, Dieu t'a vu et Dieu m'a vu. Et il s'est réconcilié et uni avec nous en Christ. Quand je serai élevé de la terre, on peut le lire dans l'autre évangile, j'attirerai à moi tous les enfants de Dieu dispersés. Dans un autre passage, ceux qui sont loin et ceux qui sont proches, tous ont été rapprochés de Dieu par la croix. J'attirerai à moi tous les enfants de Dieu. Le peuple d'Israël, les Juifs, étaient proches de Dieu en raison des alliances, des promesses et de la parole. Nous étions loin de Dieu parce que nous n'avions aucune part à l'alliance et aux promesses, loin de Dieu dans ce monde. C'est par la croix que tous deux, par un seul, ont été réconciliés avec Dieu. Je pense alors à la parole glorieuse de Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, du verset 7. Philippiens 2, verset 7. Il s'est même dépouillé lui-même, prenant sur lui la forme d'un serviteur, entrant entièrement dans la nature humaine et étant trouvé dans son corps comme un homme. Il s'est humilié et abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé au-dessus de toute mesure et lui a donné le nom qui est supérieur à tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou de tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchisse. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On pourrait également lire un certain nombre de passages bibliques à ce sujet, à savoir que c'est seulement ici que le Seigneur, notre Rédempteur, a été mis à nu devant l'humanité, qu'il a dû prendre sur lui tant de choses et porter tant de choses. Et je l'ai dit, je l'ai déjà fait passer tout à l'heure sur mes lèvres, dans la conversation, les scribes pouvaient se permettre de dire en présence de notre Seigneur, nous ne sommes pas nés dans l'adultère. Ils pouvaient se permettre bien des choses en pensée et en parole. Comme cela aurait été plus simple si Marie, qui devait amener notre Seigneur dans ce monde, n'avait même pas été fiancée, que rien du tout n'aurait pu surgir, rien du tout. Il fallait qu'il en soit ainsi, pour que ceux qui peuvent encore remplir la mesure puissent vraiment la remplir ou doivent pouvoir la remplir. Nous ne sommes pas en mesure de saisir le plan de Dieu jusqu'au bout. Mais frère Branham a dit textuellement, notre Seigneur a dû vivre avec cela. On a dit qu'il était né hors mariage et que Joseph avait seulement voulu couvrir la chose. Vous pouvez vous imaginer ce que cela représentait aux yeux des gens. Maintenant, voyez la différence entre la façon dont les hommes peuvent voir une chose et la façon dont Dieu la voit, parce qu'elle est complètement différente. Les hommes ont pu juger par erreur et ils l'ont fait. Ils ont dit, nous connaissons ses frères et ses sœurs, nous les connaissons tous. Ils vivent ici, n'est-ce pas? Et les quatre frères sont énumérés par leur nom et ainsi de suite. Et que dit notre Seigneur? Quand on lui a annoncé, ta mère et tes frères sont là, ils veulent te parler. Il répond, mais qui sont mes frères et qui est ma mère? Tous ceux qui font la volonté de mon Père céleste, ce sont mes frères. Vous voyez de quoi il s'agit? Mais il devait vivre avec ces choses. Il devait vivre avec cela. Il savait qui il était, ainsi que ceux à qui cela avait été donné par révélation de Dieu. Personne ne sait, ne connaît qui est le Fils que le Père. si ce n'est le Père. Et qui est le Père si ce n'est le Fils? Et à qui il veut le révéler? Ici, il est écrit. C'est sans doute ce qui est écrit. À qui il veut le révéler. C'est une révélation. Il veut révéler et il révèle, mais nous devons aussi le vouloir. Nous devons en effet être prêts à accepter la révélation de Dieu telle qu'elle nous a été donnée dans la parole de Dieu. Je ne sais même pas si je peux l'ouvrir du premier coup. J'ai d'ailleurs une très bonne nouvelle à donner entre-temps. Il y a un an et quatre mois, on m'a volé une valise alors que je voyageais de Londres à Nairobi. Et hier soir, tard, on m'a appelé pour me dire que la valise était là. Et aujourd'hui, à l'aube, la valise est arrivée. Et ma belle Bible, avec toutes les marques, telles qu'elles étaient emballées et tout, était dedans comme si j'avais fait la valise hier. J'étais heureux de voir à nouveau mon bijou, ma vieille Bible entre mes mains. J'étais très content. Un an et quatre mois. Et voilà qu'un cadeau de Noël arrive à la maison après un an et quatre mois. Louange et merci à notre Dieu. Comme nous l'avons déjà dit, nous venons-en maintenant à ce qui suit, car il s'agit en fait de plus. Il s'agit de plus. Je lis encore une parole de Actes Apôtres, le chapitre 2. Et je voudrais aller rapidement à Hébreux chapitre 11. Actes Apôtres, chapitre 2. Ici, il est écrit au verset 33. Après donc, été élevé par la droite de Dieu et ayant reçu du Père le Saint-Esprit promis, il a maintenant, comme vous le voyez et l'entendez vous-même, répandu ici. À Golgotha, il a été un peu élevé par les hommes. Ce mot doit être considéré comme négatif dans ce cas, dans le contexte de Golgotha, élevé. Cela a été fait pour que tout le monde, tous les yeux, même ceux qui étaient un peu plus loin, puissent tout voir clairement. Ainsi, des mains d'hommes l'ont élevé à cause des hommes, l'ont rendu un objet de dérision, un objet de moquerie. Dieu l'a élevé ensuite, Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin de donner le Saint-Esprit à ceux qu'il a rachetés, comme il est écrit ici. Il relit le verset 33, ayant donc été élevé par la droite de Dieu et ayant reçu du Père le Saint-Esprit promis, il l'a maintenant, comme vous le voyez et l'entendez vous-même, répandu ici. Quelle différence, quelle grande différence entre l'une des élévations sur la colline de Golgotha faite par la main des hommes pour se moquer et l'autre élévation par la main de Dieu, par la droite du Tout-Puissant qui conserve la victoire. Et puis ajoutant non seulement qu'il a créé la rédemption, qu'il a accompli la rédemption, non seulement il a élevé au-dessus de tous les cieux, mais il a ensuite donné et répandu le Saint-Esprit promis afin que la même vie qu'il avait en lui, et telle qu'elle était en lui, que la même vie fut aussi en ceux qui ont été rachetés par lui. Venez avec moi au chapitre 11 d'Hébreux. Je voudrais lire ici ces deux registres. et dire d'emblée que tout, que tous étaient des héros, quelle que soit la rubrique à laquelle ils appartiennent. Nous n'aurions probablement considéré comme héros que le premier ou la première partie. Les Saintes Écritures considèrent tous ceux qui sont cités ici comme des héros. J'aimerais vraiment insister sur ce point pour nous réconforter et nous renforcer, nous consoler, afin que vous sachiez de quoi il s'agit, car les choses pratiques dans la vie des croyants et des hommes de Dieu ont également été émises par écrit, afin que nous puissions trouver du réconfort dans, dans nos expériences et savoir où nous en sommes et où nous allons. Je lis dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 33. Hébreux 11, verset 33. C'est par la foi qu'ils ont vaincu des royaumes, pratiqué la justice, atteint l'accomplissement des promesses, fermé la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Le tournant se produit directement à la moitié du verset. Ce n'est pas en haut, mais en bas que ça se passe. Pas en haut, mais en bas. D'autres se sont laissés martyriser. Il continue le verset 35. Mais pourquoi n'ont-ils pas eu la victoire? Pourquoi sont-ils tombés entre les mains de ceux qui pouvaient les martyriser? Pourquoi ce sont donc... Voilà la question qui se poserait chez nous, n'est-ce pas? Je lis encore une fois. D'autres se sont laissés martyriser et ont refusé la délivrance. Jésus a dit, si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. On a fait descendre Paul par-dessus le mur de la ville, dans une corbeille, pour qu'il puisse se précipiter. Laissez-moi poursuivre ma lecture. Ils se sont laissés martyriser et ont refusé la délivrance pour avoir part à une résurrection d'autant plus glorieuse. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que nous appelons la première résurrection, qui est en fait désignée dans le texte original comme une résurrection hors du corps, et dont Paul dit également, afin que je participe à cette résurrection. J'ai expliqué ici dans la brochure à quel point la première résurrection est vaste. Il s'agit ici de la résurrection en lien avec le changement et l'enlèvement afin de prendre part au festin des noces de l'agneau. La plus haute destinée que Dieu ait pu donner aux hommes. Je continue à lire ici, peut-être encore une fois à partir de cette liste qui devait être parcourue ci-dessous. D'autres, il relit la moitié du verset 35, d'autres se sont laissés martyriser et ont refusé la délivrance pour avoir part à une résurrection d'autant plus glorieuse. Permettez-moi de m'arrêter ici un instant. Ils savaient exactement que s'ils ne tenaient pas bon dans cette situation, ils ne pourraient pas atteindre le but suprême. Mais ils ont atteint, ils avaient le but et le plus élevé devant les yeux, sous les yeux, même si cela passait par le bas. Ils ont tenu bon, ils étaient des héros dans la souffrance. Nous ne voyons des héros que lorsque quelqu'un prend une mâchoire d'âne, frappe une fois et que 1000 Philistins tombent morts. Alors ça, c'est un héros. Et qui sont ceux qui se sont laissés martyriser et qui sont restés malgré tout fidèles et qui ont tenu bon et qui n'avaient qu'une chose en tête, ne pas manquer cette glorieuse première résurrection, mais y assister, y prendre part. Bienheureux, bénis et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Laissez-moi lire cela encore. En part du verset 36, d'autres encore ont subi les moqueries et les fouets, avec en plus les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, verset 37, torturés, sciés, exécutés à la hache. Ils ont erré dans des peaux de moutons, dans des peaux de chèvres, au milieu des privations, des tribulations et des maltraitances. Eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les fentes de la terre. Et tout cela, à la foi desquels il fut pourtant rendu témoignage, n'ont pas obtenu l'accomplissement des promesses, de la promesse, parce que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Ils ne devaient pas atteindre la perfection céleste sans nous. Oh, quelle parole merveilleuse! Je ne sais pas si elle sera grande pour nous tous et si oui, dans quelle mesure. Dieu récompense la fidélité. Il récompense l'obéissance de la foi. L'un est un héros en ce sens que, comme je l'ai déjà dit, il remporte ici 1000 Philistins et là un Goliath, ici une victoire et là il sort victorieux d'un combat. D'autres doivent passer des épreuves ou des examens d'un tout autre genre. La flagellation, le fouet. Qu'a dit Paul? Combien de fois a-t-il reçu les 39 coups de fouet? Par quoi a-t-il pu passer? Et puis il écrit si magnifiquement dans Romains 8, dans les derniers versets, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur? Rien, ni le présent, ni l'avenir, ni le haut, ni le bas, ni les puissances, ni les haches, ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, les héros n'ont pas seulement été énumérés ici dans la première moitié. Des hommes ont enduré beaucoup de choses à cause de la parole de Dieu. Et ces héros ont été ici énumérés dans la deuxième moitié de ce chapitre. Des hommes ont enduré beaucoup de choses à cause de la parole de Dieu, à cause du nom du Seigneur. Ils ont été lapidés, torturés, exécutés. Ils n'ont pas toujours été des héros. Là, ils ont été lapidés. Ici, ils ont subi la hache du bourreau, etc. Mais ils étaient fidèles. Fidèles jusqu'au dernier moment. Ils savaient en qui ils croyaient. Et ils avaient une chose en tête, comme l'Écriture en témoigne. Et ils voulaient avoir part à la glorieuse résurrection dont nous savons qu'elle aura lieu lorsque notre Seigneur reviendra et que la trompette de Dieu sonnera, que le cri de commandement retentira, le réveil et que les morts en Christ ressusciteront, les premiers, premièrement, et que nous, les vivants, nous serons changés. La fidélité et l'héroïsme. Donc être héros ne consiste pas seulement en ce qui frappe les yeux des autres. La fidélité et l'héroïsme aux yeux de Dieu peuvent être là où personne ne te voit, peuvent être là où personne ne le sait. C'est entre toi est ton Dieu. Tu sais très bien que c'est là que je dois être fidèle. Et vous savez bien que nous ne pouvons pas nous l'enlever, nous le procurer, nous le donner non plus, mais Dieu nous l'a donné par grâce. Nous ne pouvons pas faire autrement, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons dans notre vie. Il y a des gens sur terre qui restent fidèles malgré leur situation difficile, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils passent de la foi à la vue. Il y a des gens qui vont et viennent, c'est possible. Mais celui qui, avant la fondation du monde même, a été choisi, élu par Dieu en Christ et prédestiné à la vie éternelle, et qui a reconnu qu'il en est ainsi, celui-là, son ancre s'étend au-delà du rideau. Celui-là n'est pas ballotté par tous les vents, croyant aujourd'hui et ne croyant plus demain. Non, c'est toujours oui et amen. C'est pas aujourd'hui oui et demain non. Non, c'est toujours oui et amen. Dieu nous a fait la grâce. Nous ne pouvons rien. Dieu nous a déterminés à devenir croyants, à être croyants, à croire. Dieu nous a déterminés à être fidèles en toutes circonstances. L'un a peut-être remporté une grande victoire quelque part. L'autre, de telle manière que personne ne l'a vu. Mais il s'agissait de la vérité que nous devions porter ou que nous portions. Et il s'agissait de la vérité que d'autres ont portée en leur temps. Comme nous l'avons déjà dit, la première liste ou la première partie des royaumes, ils ont vaincu des royaumes. Ils ont exercé la justice. Ils ont obtenu les promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, et échappé au tranchant de l'épée, etc., etc. C'est des choses merveilleuses, n'est-ce pas? Magnifiques. Alors nous pensons alors aux trois hommes dans la fournaise de feu, à qui il n'est rien arrivé. Et ceux qui les y ont jetés ont été brûlés. Vous pouvez le lire. Mais ceux qui ont été jetés dans la fournaise, il ne leur est rien arrivé. Seulement à ceux qui les ont jetés. C'est vrai, d'ailleurs, bien sûr. Bien-aimés, Dieu peut préserver. Dieu a préservé, a gardé. Il n'y a qu'une seule chose. Il suit des chemins différents avec son peuple. Et alors, il peut aussi arriver que ton chemin passe une fois avec assurance par-dessus des hauteurs. Tu t'étonnes toi-même de tout ce qui s'est passé. Et soudain, un chemin passe par le mépris, l'opprobre, tout en bas. Et tu constates que Dieu te donne de la persévérance, de la fermeté, de la foi. Et tu persévères et tu honores Dieu ainsi par la foi de cette manière. L'important, c'est que quelle que soit la situation, nous rendions gloire à Dieu en sachant qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais seulement une marche en avant avec le Seigneur. Il n'y avait aucun vrai croyant qui aurait préféré vivre sans le Seigneur plutôt que de mourir avec lui. Qui aurait préféré vivre sans le Seigneur plutôt que de mourir avec lui. Les vrais croyants préfèrent mourir avec le Seigneur, mais ils ne voulaient pas vivre sans lui. N'est-ce pas? Que ferions-nous d'une vie sans le Seigneur? Je veux dire que c'est inimaginable pour nous. Un homme qui n'a pas reçu Jésus-Christ, accepté Jésus-Christ, n'a pas de sens, n'a pas de contenu dans sa vie. Il n'a pas de but, d'objectif. Jésus-Christ est devenu pour nous tout en tous. Frère bien-aimé, chère sœur, quel que soit ton chemin, qu'il passe par des hauteurs ou des profondeurs, Dieu est avec toi. Il te conduit dans les verts, sur les vertes prairies. Il t'accompagne même dans la vallée de la mort. Nous ne craignons pas le malheur. Il est notre vie. Les épreuves par lesquelles tu dois passer doivent-elles se dérouler en bas? Alors dis oui, je te prie, ne te rebelle pas. Reste fidèle, dis oui, reste fidèle en toutes circonstances. Même si tu passes par les profondeurs, par le bas, la fidélité sera récompensée. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Certains ont refusé d'être libérés. Ils préféraient mourir avec le Seigneur plutôt que de le renier et de vivre ensuite sans lui. Il y a des fidèles dans le pays. Soyons-en. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.